Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à lire. Initié en 1993 déjà, les rencontres de la bande dessinée et de l'illustration à Bastia proposent chaque année, au début du printemps, 4 jours consacrés aux voix émergentes, aux grands classiques, aux auteurs confirmés et à l'illustration pour la jeunesse. Juana Macari, directrice du centre culturel Una Volta, nous présente au micro de Fred Michel cette nouvelle édition.
Bonjour Juana.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle. Aujourd'hui, on va parler de BD Bastia, l'édition 2024 qui se déroulera du 4 au 7 avril. Alors cette année, l'édition, elle propose de regarder le monde à l'envers. Expliquez-nous.
Alors c'était une petite formule pour introduire l'exposition thématique de cette année qui parle de la sorcellerie, de la magie, de l'ésotérisme, voilà, tous ces sujets à la fois qui sont des sujets très liés au féminisme, notamment depuis la publication du livre de Mona Chollet. Donc c'est vrai que dans l'exposition, ces thématiques restent associées au féminisme, mais pas que, puisqu'on a l'habitude d'avoir une sélection qui est assez éclectique. Et donc voilà, il y a aussi des récits qui sont des récits de fantasy et qui traitent, qui sont un peu moins militants peut-être que d'autres. Donc on a essayé d'ouvrir le thème au maximum pour que tous les publics y trouvent leur compte en fait.
Justement, on va s'arrêter sur le public parce que le public est toujours au rendez-vous. Hein. C'est la 31e édition cette année.
Oui. On a fait une très belle édition anniversaire l'année dernière. On a failli battre le record de vente de la librairie. Donc c'est très très encourageant, surtout évidemment post-crise sanitaire où voilà, la fréquentation des lieux culturels en général avait beaucoup chuté. Et c'est vrai qu'il y a un vrai regain depuis 2023 et qui nous encourage à poursuivre avec beaucoup d'énergie et de motivation.
Le festival, il est porté par Una Volta, donc on peut revenir aussi sur Una Volta parce que son travail, ce n'est pas uniquement pendant le festival, c'est tout au long de l'année.
Oui, tout à fait. Donc Una Volta, c'est un centre culturel qui est basé à Bastia. C'est en volume d'activité et en diversité aussi d'activités proposées, c'est l'une des plus grosses structures culturelles de Corse, en tout cas associatives. L'activité, elle est tournée autour des arts visuels en général, puisqu'on a une saison d'exposition qui propose aussi de la photographie, de l'art contemporain, voilà, sous toutes leurs formes. Et c'est vrai que le travail autour de la bande dessinée, de l'illustration est très présent tout au long de l'année. Le festival est le point d'orgue, mais on a un travail de fond, notamment pédagogique, avec des projets scolaires, des classes primaires jumelées à la programmation, une résidence pédagogique avec un auteur ou une autrice, et d'autres projets. Cette année, on a un nouveau projet qui s'appelle BD Balise, qui est en fait un projet de déclinaison de l'affiche de Camille Jourdi sur des grands panneaux d'un mètre sur un mètre vingt qui sont réalisés par des lycéens et qui vont servir en fait de signalétique en ville. Et ces panneaux, il y a 18 panneaux en tout, donc ils ont bien travaillé avec 4 classes. Et ces panneaux racontent en fait une petite histoire tirée de l'affiche de Camille. Voilà, il y a le prix des lycéens aussi, et puis évidemment des scolaires qui viennent en visite guidée d'exposition, en atelier toute l'année. Il y a c'était une MJC au tout début dans les années, à la fin des années 70, on a aussi conservé les ateliers de pratique artistique, toutes disciplines confondues. Donc voilà, ça fait 750 à 800 adhérents à l'année, donc il y a un ancrage territorial qui est très très fort.
On va rappeler aussi l'ADN du festival, parce que l'ADN du festival, c'est la proximité avec les autrices et les auteurs. Donc là, il n'y a pas de longue séance de dédicace. Ouais. Il est dit de proximité aussi.
Oui, ça c'est vraiment d'après ce que nous, chaque année, hein, ce que nous disent les auteurs et les autrices invités, c'est quelque chose d'assez unique en fait. Alors la proximité, mais aussi le temps. Temps laissé à la rencontre spontanée. Le fait qu'il n'y ait pas de partie salon, donc il y a une librairie éphémère qui propose les bibliographies des auteurs et des autrices invités, ça c'est aussi très important. On travaille vraiment dans une relation assez étroite avec le libraire. Et le fait qu'il n'y ait pas cette partie salon et cette partie dédicace laisse aux invités le temps de rencontrer le public, de se rencontrer aussi entre collègues, entre guillemets. Les invités peuvent aller découvrir les expositions qui sont en général assez nombreuses. Donc, cette année, il y a 11 expositions. Écouter les rencontres aussi. Donc, il y a un format de rencontre professionnelle sur 4 jours finalement. Et c'est assez fructueux puisque régulièrement, il y a des projets qui émergent de ces rencontres informelles durant le festival.
On va s'arrêter sur les invités. Je ne vais pas tous les citer, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y aura Peggy Adam, Olivier Bruno, Étienne Chaise, Anis Elamouri, Claire Fauvel, Mathias Lehmann, Thomas Rouzière, Mathilde Van Geluw ou encore Zelba. Donc beaucoup, beaucoup d'invités cette année.
Oui, 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 je crois qu'on est à 22 ou 23 invités. La particularité aussi, c'est que tous les invités sont exposés et ont une rencontre, un format de rencontre en public et ou de rencontres avec les scolaires aussi dans les expositions. Alors, c'est nombreux et pas nombreux finalement, mais c'est vrai que le fait d'imposer cette visibilité égale pour tous fait que le nombre des auteurs tourne en général autour de 25, avec des expositions collectives, puisque l'exposition qui s'intitule Signador autour de la sorcellerie est une expo qui rassemble 8 auteurs-autrices. Le prix des lycéens aussi, auquel on consacre, il y a 3 albums sélectionnés, ils sont exposés aussi dans une exposition collective. Voilà, donc on a comme ça une proposition qui est assez, assez riche et on inclut évidemment depuis le début aussi l'illustration et la bande dessinée jeunesse puisqu'on a un public qui est aussi très familial.
On va poursuivre sur les expositions justement au nombre de 11, c'est ça?
Oui.
Donc on va commencer par Camille Jourdi.
Allez, Camille Jourdi, donc elle signe l'affiche cette année. C'était une évidence en fait quand j'ai su que Pépin et Olivia sortaient en 2023. Et c'est vrai que cette année, j'attendais, il faut qu'il y ait quelque chose de très, de très évident pour confier cette commande d'affiche originale. Et quand j'ai pris connaissance du travail de Camille sur Pépin Olivia, que je trouve fantastique comme d'habitude, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion. Elle avait encore jamais fait d'affiche pour nous.
On va essayer de résumer l'affiche parce que c'est un point de vue sur Bastia.
Oui, parce qu'en fait, Camille, elle est déjà venue à Bastia à plusieurs reprises. La dernière fois, c'était sur une édition un peu, Covid, donc c'était une édition un peu étrange. Et c'est vrai qu'elle a eu le temps de se balader à Bastia et je trouve que ça se voit dans l'affiche puisque elle a pris un point de vue qu'on n'avait encore jamais eu, qui est un point de vue en surplomb du vieux port de Bastia. Donc on voit la l'anse en fait du port et ça fourmille de détails comme d'habitude dans le travail de Camille et ce sont des détails qui sont très précis en fait dans leur référence puisque que ce soit les oiseaux, la végétation, on a du laurier rose, on a des plants de grâce qui sont aussi assez emblématiques de Bastia en général et puis cette référence aussi au classique de la bande dessinée puisqu'elle a remplacé l'un des deux phares du port par la fusée de Tintin. Évidemment c'est le phare rouge qui est remplacé par la fusée rouge de Tintin. Donc je trouve que vraiment rien ne manque dans cette affiche. On a Saint-Jean, l'église, là aussi hyper emblématique du vieux port qui est bien présente et puis les personnages qui admirent donc le vieux port et les petits personnages puisqu'il y a le marsupilami, il y a Obélix mais en version féminine aussi qui plonge dans la mer et on a une maman et ses deux enfants qui observent la scène vue du dessus. Donc
voilà, et pour compléter cette belle affiche, Camille Jourdi aura droit à une exposition.
Oui, donc autour de Pépin et Olivia, puisque je pense qu'on a exposé quasiment tous ses albums précédents, et dans une mise en espace aussi qui rappellera cette ambiance qui est particulière, puisque elle est vraiment tellement douée justement pour faire ressortir cette magie du quotidien, tous ces petits détails qu'on a vécu les uns les autres, le fait de passer des après-midi entières à jouer dans sa chambre d'enfant, à faire des cabanes, et elle arrive encore, même si c'est des situations qui sont connues, reconnues, qu'on a vécues, elle arrive encore à tirer toute cette magie de ces situations-là et à nous émouvoir, tout à fait.
Ensuite, on va passer à Jérémy Fischer, peut-être.
Oui, Jérémy Fischer, c'est un compagnonnage cette année entre donc, l'automne 2023 et 2024, puisqu'il il a effectué une résidence de création en octobre, et puis il a poursuivi avec la résidence pédagogique avec une classe de 6e du Collège Saint-Joseph, qui est située en quartier prioritaire. En fait, ça faisait longtemps que je voulais inviter Jérémy pour la résidence pédagogique, mais comme il est très très pris, voilà, on avait pris date, je crois, au moins deux ans à l'avance. Et puis, évidemment, c'était une super opportunité pour nous de l'avoir aussi en résidence de création, parce que son projet qui s'appelle Itinérance, qui est un recueil de paysages, pouvait tout à fait s'inscrire aussi à Bastia et plus largement en Corse, puisqu'il randonne beaucoup aussi. Donc, il est allé à Corté, voilà. Et donc, il y a des images. Donc, son travail, c'est un travail en collage avec des papiers de couleur. Des images qui seront celles qu'il a produites en Corse et qui seront dans l'exposition, évidemment, même si le livre qui paraîtra chez Magnani n'est pas encore édité. Mais on aura déjà ces images dans l'expo. Et puis ensuite, le travail avec les sixièmes, ça a été un projet exceptionnel aussi. On était vraiment dans l'attente et je crois que vraiment cette rencontre a tenu toutes ses promesses. On avait un très très bon groupe cette année et Jérémy leur a laissé tout en les guidant dans l'aspect un petit peu technique, il leur a laissé un champ d'expérimentation qui est fabuleux et qui leur a ouvert, je pense, vraiment tout un univers dont ils ont su se saisir, ce qui est important parce que c'est pas si évident. Et ils ont travaillé à partir d'œuvres du musée de Bastia. Et en fait, ils ont produit un catalogue imaginaire d'exposition. Donc, ils ont créé des œuvres, recréé des œuvres à partir de papier découpé, noir et tramé. Donc, ils ont passé une après-midi entière à faire des trames, des gribouillés, quoi. Pour eux, c'était vraiment des gribouillés. Et ne serait-ce que ça, de se dire que ces gribouillés qu'ils ont produits, mais de manière très concentrée, très professionnelle, vont ensuite venir créer des textures, créer aussi des perspectives sur la page diverses et variées. C'était assez magique. Ensuite, ils ont effectué aussi la couleur par calque. Et Jérémy a ensuite, selon leurs indications, créé la colorisation numériquement. Donc, il y a eu plein d'étapes comme ça où, en fait, même Jérémy disait « Bon, on ne sait pas trop où on va ». Mais on y va, on essaye des choses, on tente. Et vraiment, le résultat est superbe. Et la dernière séance, ça c'est la première fois qu'on arrive à travailler de cette manière-là. On leur a fait imprimer une jaquette en sérigraphie. Voilà, en collaboration avec un atelier qui est basé à Ajaccio et qui travaille avec Christian Berdrose, qu'on reçoit aussi depuis des années à Bastia, qui lui est basé à Genève. Enfin, bref, tout ce petit monde-là gravite autour de ce projet et c'était vraiment génial de voir les enfants être auteurs et puis ensuite imprimeurs. Ils ont aussi plié la jaquette, mais de manière hyper collaborative. Enfin, il y avait vraiment une fluidité extraordinaire, quoi.
Ça fait envie tout ça. Ouais. On poursuit un peu avec les expositions.
Oui, alors à Una Volta, on propose aussi une exposition autour du travail d'Étienne Chaise sur Ether. Donc ça, c'est vraiment un événement également, puisque l'album est sorti en janvier. Donc il y a encore eu assez peu de choses d'ailleurs sur ce travail-là. Étienne Chaise, il est plutôt connu pour son travail très précis au numérique, sur Photoshop. Et il est revenu au crayon graphite, donc une technique traditionnelle. Les originaux sont très impressionnants de précision, de réalisme. Il y a un travail de la lumière qui est incroyable. Donc Ether, en fait, c'est... On suit une population qui est chassée d'une ville et qui essaye de trouver un nouveau territoire pour s'implanter, pour retrouver une maison, tout simplement. Et donc, il traverse comme ça des paysages fantastiques avec des ambiances très différentes. Et donc, on a dans l'exposition ses recherches, enfin son travail de recherche, de documentation, notamment architectural, mais aussi du paysage. Et puis ensuite, on a toute une diversité de recherches de croquis, plus ou moins aboutis. Sur une page, il y a déjà un nombre de recherches hyper impressionnant. Donc, on a dû sélectionner un petit peu. Mais c'est vrai qu'on a là une matière pour découvrir tout un processus. On a une matière qui est très, très riche. Voilà, et Étienne sera aussi en rencontre, évidemment. Et je sais que pour l'avoir déjà vu, il parle très, très bien de son travail et il donne beaucoup, beaucoup de précisions sur la manière dont il élabore ses livres.
Ensuite.
Alors ensuite, toujours à Una Volta, donc l'Expo Signador, qui est une exposition quand même particulière, puisque déjà elle rassemble beaucoup d'auteurs et d'autrices, mais on travaille aussi une scénographie immersive, donc qui n'est pas, voilà, qui est pas travaillée comme un décor, on va dire, mais qui vient participer en fait de ce qui est proposé dans les livres. Donc beaucoup de petits détails, un travail sur l'ambiance aussi, notamment lumineuse, qui est très important. La construction évidemment aussi, puisque on est dans les salles du centre culturel, et ce qui nous importe aussi, c'est de dérouter un petit peu notre public, notamment ceux qui connaissent nos espaces. Donc on a encore une manière différente d'aborder l'espace. On aura une salle plutôt avec une ambiance intérieure et une autre salle où on se retrouve vraiment dans une ambiance de forêt. Donc tout ça est en cours d'élaboration. Et puis sur les livres qui sont présentés, donc voilà, une grande variété. On aura le travail de Thomas Gilbert sur Les filles de Salem et la voix des bêtes, la fin des hommes. Peggy Adam avec M. Kla. On aura aussi Nuria Tamarit avec Louvre Boréal et Géante. Le travail de Béa Lema, donc à la fois au feutre et aussi en broderie, donc sur des mots à dire. The Midnight Order avec Claire Fauvel et Mathieu Bablet. Mathieu Bablet coordonne l'ouvrage. C'est Thomas Rousière qui sera présent à Bastia. Et Anicelle Amoury également avec Il brûle, Sandrine Rivière et Stéphane Fert avec La Marche Brume, le premier tome qui est paru en 2023. Donc là aussi, même graphiquement, il y a une très très grande variété. Il peut y avoir de la couleur directe, il peut y avoir du travail au numérique. Donc il y a une manière de présenter aussi les œuvres selon les techniques qui va varier. Voilà, ça peut être un encadrement assez classique. Mais il y a aussi de la broderie. Donc il y a par exemple les broderies de Béa Lema, on pourra les voir en recto verso. Elles sont incluses dans une construction un peu particulière pour qu'on ait cet effet-là. Peggy Adam aussi travaille en broderie. Donc il y aura aussi l'accrochage qu'on prendra ce travail-là, un petit peu complémentaire en fait d'Emcla. Il y aura aussi du rétroéclairage pour les planches de Stéphane Fert. Enfin, voilà, il y a vraiment une variété de présentations qu'on travaille avec beaucoup de plaisir, il faut le dire.
On aura aussi la possibilité de découvrir le travail de Sarah Chevaux.
Oui, Sarah Chevaux, elle sera présentée à la médiathèque centrale. Il y a deux expositions cette année à la médiathèque. Et donc on expose Nuit de chance, son album réalisé entièrement au fusain, mais pas n'importe quel fusain, puisque ce fusain est issu de ses ballades et de son collectage de diverses essences de bois. D'ailleurs, il y a un inventaire à la fin de Nuit de chance qui reprend cet inventaire de petits bouts de bois transformés en fusain et de la couleur et de la texture que donne chaque type de fusain. Et Nuit de chance, c'est une balade dans la forêt la nuit, donc on y croise beaucoup d'animaux différents.
Des sangliers.
Des sangliers notamment. Alors, nous, on s'y retrouve, puisque en Corse, il y a énormément de sangliers et il est souvent repris comme un symbole aussi de la faune corse. Mais il y a aussi des cerfs, des renards, des écureuils et beaucoup de végétation. Et cette ambiance de nuit, elle donne aussi l'occasion à Sarah de travailler de manière très graphique, notamment les végétaux. Voilà, pour restituer au mieux ces sensations aussi, ou ces perceptions visuelles un peu troublées par la nuit.
Ensuite, on pourra aussi découvrir le travail de Baptiste César, qui lui s'intéresse à la gravure.
Oui, il s'intéresse à la gravure. Alors, Baptiste, c'est un travail un peu différent, puisque lui, il est plasticien. Il n'est pas auteur de bande dessinée, et c'est vrai que c'était l'occasion pour nous de faire ce lien, puisque on milite depuis quand même pas mal de temps pour que le lien entre art contemporain et bande dessinée soit un peu plus...
Pour abolir les frontières.
Conséquent. Ouais, pour abolir... Parce que c'est vrai que... Enfin, moi, ça m'arrive régulièrement d'aller dans des expositions d'art contemporain où je vois que le dessin est présent, et quand je vois ce que produisent les auteurs de bande dessinée, je me demande pourquoi ils n'ont pas plus de place justement dans le champ de l'art contemporain. Voilà, ça, c'est une question peut-être de chez Appel qu'il faut essayer de plus ou moins d'abolir. Et ce que fait, par exemple... Julien Magnani avec sa maison d'édition, donc qui édite Jérémy Fischer notamment. Oui, donc Baptiste César, lui, il a fait 2 résidences en Corse. Il a travaillé beaucoup sur la végétation, donc les châtaigniers, et aussi sur les ruines. Et en fait, son travail en dessin me paraissait tout à fait cohérent avec ce qu'on propose par ailleurs. Et ensuite, il a expérimenté effectivement un travail de gravure, notamment sur carreaux de faïence, qui est très intéressant. Et je pense que les auteurs et les autrices de bande dessinée ont tout à fait accroché aussi avec ce travail-là.
Lui aussi, il est dans le détail. Hein.
Oui. Ah oui, tout à fait. C'est d'une minutie. C'est vrai qu'on le voit notamment sur son travail sur la châtaigneraie, puisque les châtaigniers sont des arbres très massifs. Les écorces sont souvent très, très travaillées, avec beaucoup de détails, beaucoup d'accidents aussi. Et souvent, on a des lianes qui viennent habiter les châtaigniers, qui renforcent ce côté un peu jungle de ces forêts de châtaigniers. Donc, il a très, très bien restitué en dessin. On a vraiment tous les petits détails de la manière dont se comporte cette flore.
On va terminer par Magda.
Oui, alors Magda, ce sera aussi à la médiathèque centrale. C'est une série jeunesse qu'on a tout de suite adorée dès la parution du premier tome chez Sarbacane. Et donc le deuxième est paru et le troisième sortira juste avant Béda Bastia. Donc on pouvait difficilement louper cette occasion-là. Et donc on est très content d'accueillir Mathilde Van Gleuve pour 2 jours notamment de travail avec les scolaires. Et donc Magda, c'est une série, comme le dit l'éditeur, je trouve que c'est très juste entre Top Chef et Harry Potter. C'est vraiment au croisement des deux, puisqu'il y a ce côté très fantastique et il y a ce côté très, très militant aussi sur l'écologie en général, et avec ce concours donc de cuisine intergalactique auquel participe Magda, qui met un suspense incroyable, et on a vraiment hâte de découvrir la suite donc début avril.
BD Bastia, on l'a vu, c'est beaucoup d'expositions, mais BD Bastia, c'est aussi des rencontres et du spectacle vivant.
Oui, et le spectacle vivant, comme on essaye d'être toujours très cohérent dans notre proposition, cette année, ce sera encore autour du travail de Jérémy Fischer, puisqu'il avait une résidence à l'occasion d'un festival qui a pour habitude de monter des résidences qui mêlent la création visuelle et la danse contemporaine. Donc il a travaillé avec la compagnie Adéquate et ils ont produit le spectacle Entordu à partir de son travail. Alors là, c'est plutôt son travail sur les livres animés plutôt que le collage. Et en fait, son travail participe, c'est là encore plus qu'un décor, participe vraiment de la création chorégraphique, puisque les danseurs plutôt interagissent avec les images sur le plateau.
On va s'arrêter aussi un peu sur les rencontres.
Mmh. Oui, les rencontres, 12 de rencontres toujours.
On va en citer quelques-unes peut-être.
Oui, alors on peut citer, évidemment, on ouvrira le festival avec Camille Jourdi le jeudi. Et puis on a quelques jolis plateaux aussi autour de Signador. Et on a aussi, puisqu'on ne l'a pas cité dans les expos, Mathias Lehmann, auquel on consacre une grande exposition au musée, qui sera en rencontre le samedi après-midi. Sarah Chauveau également. Également, on parlera de son travail, et puis une rencontre qui est une rencontre tout public mais qui a un axe un peu plus professionnel autour de la bande dessinée alternative le samedi matin dans le cadre des 40 ans de la CBD avec Émilie Glison, Julien Magnani,
Frédéric
Augelot aussi pour Second Souffle, qui traite justement de cette seconde génération des maisons d'édition, donc post-association qui a ouvert le bal, ouvert la voie, en tout cas de nombreuses voies autour d'autres manières de produire de la bande dessinée. Et donc ce livre, Second Souffle, parle de cette génération des années 2010-2020.
Et il y aura aussi une grande, grande surprise à BD Bastia. Malheureusement, oui. On ne peut pas en parler.
Non, donc, pas encore.
Mais il sera dévoilé dans très, très peu de temps. Oui. Donc, j'invite les auditrices et auditeurs à rester attentifs à la programmation. Oui. Donc, la programmation est en ligne, ça y est ?
Oui. Oui. La programmation des expos, la programmation des rencontres arrive cette semaine. Elle est prête. On a pris un petit peu de temps pour la mettre en ligne, mais cette semaine, ce sera en ligne aussi. Les infos pratiques. Donc, il faut encore rester connecté. Alors, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, on pourra commencer à dévoiler justement cette belle surprise qui nous attend dans l'espace de la Citadelle.
Très bien, on va rester attentif. Alors, je rappelle les dates du festival du 4 au 7 avril à Bastia. Merci Johanna, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Voilà, on espère vous avoir donné envie d'aller faire un tour à Bastia pour ces rencontres de la bande dessinée et de l'illustration. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle.
Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.